Ouais, de retour à 21h40 et nous allons retrouver mon collègue en pleine vacances et bien gentil d'en sortir momentanément pour nous parler d'une de ses grandes passions, nul autre que le soccer qu'il décrit pour nous en temps normal, entre guillemets, quand l'Impact joue dans le calendrier de la MLS. Jérémy Filosa qui est là au bout du fil. Bonsoir, Jérémy.
Salut Mario, ça fait plaisir.
Ben, ça fait vraiment plaisir, moi aussi, d'avoir l'occasion de te parler. Et je voulais, Jérémy, que tu nous renseignes sur les scénarios de retour au jeu dans la MLS là, qui rencontrent des obstacles, puis pas des obstacles là, qui concernent nécessairement les craintes par rapport à la COVID.
Oui, exactement. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'hier soir, il y a eu une note qui a été envoyée par l'Association des joueurs sur les médias sociaux indiquant que les joueurs avaient voté pour la proposition qui avait été mise sur pied. Donc, on s'est un peu enflammé en passant qu'il y avait entente entre la MLS et l'Association des joueurs, mais en fait, les joueurs avaient tout simplement approuvé le plan que l'Association des joueurs allait déposer à la Ligue. Malheureusement, quelques heures plus tard seulement, vers minuit et quart approximativement, les propriétaires ont indiqué qu'ils refusaient la proposition des joueurs et ont même menacé de mettre les joueurs en lock-out s'ils n'acceptaient pas d'ici midi demain les conditions que eux avaient mises en place. Et là, ben, on apprend ce soir que justement cette date butoir-là a été repoussée à mercredi midi, mais on menace de placer les joueurs dans une situation de lock-out s'ils n'acceptent pas les termes et conditions que les propriétaires ont mis sur pied, là.
Et ça ressemble à quoi les conditions que le projet, c'était-tu sérieux ou c'était facile à rejeter pour les joueurs, Jérémy?
Ben, en fait, là, la grosse problématique, Mario, je vais te l'expliquer, c'est que au mois de février, il y a eu une entente entre les joueurs et les propriétaires sur une nouvelle convention collective qui devait débuter cette saison. Pendant qu'on écrivait les détails de la convention, elle qui devait être ratifiée, ben, la saison a commencé, tout s'est mis en place. Et là, la crise de la COVID est arrivée à un très mauvais moment parce que la convention collective officiellement n'avait pas été signée entre les joueurs et les propriétaires. Donc, on se retrouve présentement sans convention collective. Et là, ben, en tentant de négocier le retour au jeu qui normalement doit se faire à Orlando cet été, ben, on se retrouve ni plus ni moins à réouvrir complètement les discussions pour la convention collective qui devait durer jusqu'en 2024. Donc, comparativement à d'autres ligues, par exemple la Ligue nationale ou la NBA, qui discutent avec les joueurs seulement pour le retour au jeu, ben dans la MLS, on a tout simplement réouvert complètement les négociations de la convention collective et ça complique bien des choses. En fait, on s'est ni plus ni moins entendu pour le retour au jeu à Orlando, dans un endroit commun, à huis clos. Pour ce qui est des salaires, on est très près aussi. L'Association des joueurs propose 7,5% de coupure de salaire. La Ligue propose 8,75%. Donc, on est tout près. Il n'y a pas de problème là. Mais il y a quelques grosses difficultés. La plus grosse, c'est que la MLS veut que les joueurs acceptent que s'il y a une deuxième vague de cette pandémie, ben la convention telle qu'on la connaît tombe à l'eau et elle est à renégocier à ce moment-là, chose que les joueurs présentement ne sont pas prêts à accepter.
Est-ce que les joueurs encaissent leur salaire en ce moment, Jérémy, selon ce que tu sais?
Oui, ils encaissent leur salaire et on est quand même près d'une entente. Je pense que le monétaire n'est pas le gros problème. On avait commencé au début très loin, la Ligue demandait 20% de réduction, les joueurs en proposaient 5, donc on s'est beaucoup rapproché et à ce niveau-là, je suis quand même confiant qu'on va être capable d'en arriver à une entente. Mais l'Association des joueurs dit, par exemple, ben cette saison, c'est une saison qui tombe à l'eau, c'est une saison qui ne compte pas. On veut donc ajouter une année de plus à la convention collective qu'on vient tout juste de négocier. Les propriétaires ne sont pas d'accord avec cela. Donc, pour deux entités qui ont quand même fait du très bon travail dans les trois dernières conventions collectives en s'entendant sans avoir à procéder à des arrêts de travail, ben là, on est face à face et c'est pas impossible qu'on se retrouve dans leur cadre. Puis bien honnêtement, Mario, là, cette ligue-là ne peut pas se permettre de se retrouver dans un arrêt de travail. Je veux dire que ce matin, on s'est battu chez l'Impact de Montréal jusqu'à la semaine dernière pour faire ouvrir le centre Nutrilait. Là, le centre Nutrilait est ouvert et ce matin, les joueurs ne se sont pas présentés en guise de solidarité là, envers leur association.
Je sais pas. Le temps qu'ils sont pas en bris de contrat, il n'y a pas de problème. Il y a quand même des joueurs précieux pour la MLS, là, pour le branding, pour pour vendre, pour susciter de l'espoir. Il y a des joueurs. Même Thierry Henry, comme entraîneur, fait partie de cette catégorie d'individus qui sont bons pour la visibilité de la MLS. Ouais. Tant qu'ils reçoivent leur salaire, il n'y a pas personne qui est en faute. Mais si jamais on arrivait dans un point du conflit où ces gars-là ne recevraient plus leur salaire, je me demande jusqu'à quel point ils seraient disponibles d'offrir leur service à d'autres équipes.
Ben écoute,
d'autres ligues, d'autres pays, je sais pas.
Ah oui, il y en a plusieurs d'entre eux qui pourraient probablement se déclarer joueurs autonomes. Et ce serait épouvantablement dommageable pour la MLS, parce que la MLS, comparativement à la Ligue nationale ou la NBA, c'est pas la plus grande ligue au monde. Donc, les joueurs viennent ici pourquoi, Mario? Deux choses. La qualité de la vie, surtout, et aussi parce qu'ils savent que le salaire, le chèque de paye à toutes les deux semaines, il va être là, il va être posté, les joueurs vont être payés. Donc, si tu enlèves aux joueurs cette réalité-là et que les joueurs sortent de leur contrat ou commencent à parler à un peu monsieur, madame, tout le monde dans la ligue puis dire à leurs amis, allez pas dans cette ligue-là, ils peuvent arrêter de travailler à n'importe quand, vous n'aurez plus votre salaire, ce serait épouvantablement dommageable. Et les joueurs, comme tu le sais, Mario, ont l'embarras du choix, peuvent signer dans les ligues qu'ils veulent, là.
Et je pense pas que ça va arriver parce qu'ils vont sûrement trouver un règlement, mais c'est une possibilité qui plane. Entends-tu, je sais pas si t'as eu l'occasion d'avoir des échanges avec des joueurs de l'Impact ou encore d'autres joueurs de soccer qui évoluent d'anciens de l'Impact, qui sont ailleurs dans d'autres villes en Amérique du Nord qui appartiennent à la MLS. Quelle est leur façon de voir ça, Jérémy, la suite des choses? Ont-ils l'espoir qu'ils vont pouvoir jouer? Puis s'ils jouent, ça va être à Orlando, ça va être un tournoi en quelque sorte,
exact.
Ça va être quoi, ouais?
Ça, c'est pas mal déjà réglé. On parle d'un tournoi d'environ 4 semaines. On aurait réduit, parce qu'au début, on parlait de 8 à 10 semaines. Ensuite de ça, on avait réduit à 6. Là, on parle seulement de 4 semaines. Donc, on jouerait entre 3 et 5 matchs à la ronde qui compteraient pour la saison régulière. Et il y aurait ensuite de ça des matchs éliminatoires pour les meilleurs de chaque groupe. Et ensuite de ça, ce qu'on espère, c'est de relancer et reprendre la saison à l'automne, comme il était originalement prévu dans chacun des marchés. Mais ça, c'est loin d'être réglé d'avance. Mais ça, les joueurs semblent être quand même d'accord pour ça, et c'était prévu pour le mois de juillet. Maintenant, juste le fait que ce soir, on ait repoussé à mercredi la date butoir, à midi, pour trouver un terrain d'entente, c'est déjà très bon signe. Ces deux clans-là sont arrivés à minuit moins une, à plus d'une reprise dans des négociations de conventions collectives dans les dernières années, pour finalement trouver un terrain d'entente. Moi, ce que je proposerais, Mario, si j'étais les joueurs, je dirais, écoutez, là, on comprend vos craintes que si jamais il y a une deuxième vague, puis on peut pas, à l'automne, reprendre des activités, que vous ne pourrez pas nous payer les salaires que vous nous devez. Donc, ce qu'on peut faire, c'est donner une condition qui indique que si jamais il y a une deuxième vague à l'automne, on est ouvert à réouvrir peut-être certaines négociations, certaines parties de la convention collective, mais à partir du 1er janvier 2021, si on se rend là et il n'y a pas de deuxième vague et qu'on voit qu'on va reprendre des activités normales au printemps, ben là, cette clause-là tombe à l'eau. Et je pense que c'est de la façon dont on devrait trouver une solution des deux côtés.
Et les dates qui sont envisagées pour permettre aux équipes de s'affronter. Est-ce qu'il y a déjà des dates ou c'est juste on envisage d'amener tout ce monde-là sur les lieux? Ça va être sur le site de Disney, eux aussi, hein, dans le fond?
Exactement. Ça va être au Wide World of Sports à Orlando. C'est un site qui a plusieurs terrains de soccer, de basket, de baseball. C'est isolé, sauf que les hôtels ne sont pas sur place. Écoute, ça fait à peu près 3 semaines qu'on nous parlait de dates potentielles. On nous parlait d'un départ le 1er juin. Originalement, donc qui devait être aujourd'hui. Ça a été repoussé au 15 juin. Ensuite, au 21, là, on parle d'un départ potentiel le 24 juin pour Orlando. Mais les dates là, des matchs et du tournoi, ça n'a pas été négocié. Dans les discussions, on permettrait à des joueurs qui ont des membres de la famille malades ou qui ont peut-être une femme qui doit accoucher de quitter les lieux, retourner à la maison. Et bon, là, quand on parle de ça, ça donne que les deux plus grandes vedettes de la Ligue, Carlos Vela et Chicharito, les deux, leurs conjointes, présentement, attendent des bébés. Donc, potentiellement, c'est un tournoi qui pourrait avoir lieu sans les deux plus grosses vedettes de la Ligue. Et c'est sûr que c'est pas idéal.
Non, vraiment pas idéal. Est-ce qu'il y a un autre aspect de ce possible retour au jeu que j'oublie d'aborder avec toi, Jérémy, avant qu'on se dise au revoir?
Ben écoute, tout simplement mentionner que la MLS, vendredi dernier, a donné le feu vert pour des entraînements en petits groupes, sauf qu'on doit attendre l'autorisation de la santé publique. Et vous avez vu chez l'Impact de Montréal à quel point ça a été compliqué de simplement avoir l'autorisation pour réouvrir le centre Nutrilait pour des entraînements individuels. Donc, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais Don Garber a indiqué que pour les équipes qui ne pouvaient pas obtenir le feu vert des autorités publiques pour les entraînements en groupe, ça se peut que ces équipes-là se déplacent plus rapidement vers Orlando pour commencer justement à s'entraîner en groupe. Maintenant, on se croise les dents. On le voit même pour le Canadien présentement. C'est long, le centre sportif Belle de Brossard. On attend toujours de pouvoir le réouvrir. Donc, il n'y a pas vraiment d'accommodement, on peut dire, là, pour les sports professionnels au moment où on se parle.
Eh bien, Jérémy, un gros merci d'avoir été là. Et puis, je sais que tu es en vacances, alors merci d'en être ressorti. Et au plaisir de te reparler bientôt, puis de te revoir, puis de recommencer à travailler comme on travaillait il n'y a pas si longtemps, même si ça semble déjà une éternité derrière nous.
Ben, le plaisir est le mien, Mario, puis moi aussi. Très hâte de pouvoir retrouver une vie un peu plus normale. Voilà.
Merci, Jérémy. Salutations. Au revoir.